Moi, c'est André Limbouji, maille au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Au cours de la session parlementaire de ce mois de septembre, l'Assemblée nationale a retenu dans son calendrier l'examen de la proposition de loi organique instituant la Commission nationale des droits de l'homme. Cette commission a été vivement souhaitée par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme lors des différentes rencontres d'évaluation de la situation des droits de l'homme en RDC. Parole aux auditeurs en parle aujourd'hui et vous offre ce luxe d'analyser et de commenter sur l'apport de cette proposition. Au cœur du débat, pensez-vous que cette commission pourrait contribuer à l'amélioration du respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo? Pour participer à cet échange de près de 57 minutes, composez le 081 890 6315. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse courriel pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Poutou est au standard, Pierrot et Lamegi réalisent cette émission et Gilles Lungembo vous la présente. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. La question des droits de l'homme est au cœur des préoccupations des bon nombre des Congolais, car assurer le respect des droits de l'homme ou le droit de l'individu n'est pas toujours facile dans un contexte comme celui de la RDC, affirment plusieurs observateurs. Les Congolais font face à de nombreux conflits et le pays est en pleine reconstruction. Nous avons dans ce studio M. Scott Kamel, directeur de bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Avec lui, nous allons partager, en tout cas, ces moments d'échanger, disons, avec vous, les auditeurs. Et bonjour, Scott Kamel.
Bonjour.
Alors, nous rappelons que vous êtes directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Les Nations Unies sont comptées parmi, au fait, les partenaires traditionnels de la RDC. Cette question des droits de l'homme préoccupe bon nombre des Congolais. J'imagine que la question des droits de l'homme préoccupe aussi les Nations Unies.
Certainement, c'est une question principale pour nous. C'est parmi les piliers des Nations Unies, la sécurité, la paix, le développement et les droits humains. Donc pour nous, cette question, la mise en place d'une commission nationale des droits de l'homme en RDC est capitale. Nous sommes très intéressés aujourd'hui par la volonté que nous voyons au sein du Parlement de traiter du néo-choix et de faire le travail nécessaire pour mettre en place un mécanisme, espérons, efficace, crédible et indépendant.
Et quelle sera la participation de Nations Unies dans la mise sur pied de cette commission?
Bon, le rôle des Nations Unies est un rôle principalement technique. Nous avons à Genève, au siège de l'Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, une équipe qui est spécialisée, qui a travaillé avec toutes les commissions des droits de l'homme à travers le monde, soit en Afghanistan, en Irlande, Salvador ou l'Afrique du Sud, au Kenya, partout. Et donc cette équipe à Genève aide les différents parlements et sociétés civiles et gouvernements qui veulent mettre en place une commission nationale des droits de l'homme qui à la fois conforme aux principes internationaux pour que ce soit une commission indépendante et crédible, mais aussi qui relate du contexte national et donc qui est un mécanisme bien adapté aussi pour le contexte congolais. Donc nous avons une équipe technique et en plus il y a un secrétariat à Genève pour toutes les commissions nationales des droits de l'homme à travers le monde. Ça s'appelle le Comité international de coordination. Et c'est là où toutes les différentes commissions sur le plan mondial se réunissent, sont coordonnées et aussi un aspect très important où ils sont accrédités. Et là, ils sont accrédités avec les différents statuts.
Voilà. Alors, aujourd'hui, ici, il faut faire une lecture de respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. On est sans ignorer qu'il y a, le pays traverse beaucoup de problèmes. On fait face à beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés et surtout des conflits. Hein. Le pays est en pleine reconstruction. Est-ce que les Nations Unies, à votre niveau, est-ce que vous pouvez aussi nous aider à évaluer ne fût-ce que les niveaux actuels du respect des droits de l'homme en RDC?
Certainement, bon, très brièvement. Il y a énormément de défis aujourd'hui, en commençant avec la situation à l'est
du pays.
Certainement. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe le plus, c'est les attaques par les groupes armés, tout confondus. Certainement, il y a les différents groupes Maïmaï, il y a la Stellaire, il y a la LRA, il y a des multitudes de groupes armés qui attaquent les civils d'une manière très très brutale. Et depuis le mois d'avril, en fait depuis la création du mouvement M23, nous avons constaté une augmentation dans ces attaques contre les civils, notamment dans le Massissi, Wali Kali aussi, les zones de Pinga, de Ufamandu, où les civils ont subi des choses complètement inacceptables et à une échelle que nous n'avons pas vue depuis plusieurs années. Donc nous essayons de tirer la sonnette d'alarme sur cette situation. Or, l'Est du pays a certainement beaucoup de défis qui restent, des problèmes de nature structurelle ou institutionnelle, mais beaucoup les droits et libertés fondamentaux ne sont pas respectés.
Voilà, Edemaga est à bout de mot. Nous disons d'abord merci à vous, chers auditeurs. Vous êtes nombreux à vous inscrire pour participer à cette émission. Voilà, et vous qui nous rejoignez à peine, bienvenue dans cette émission. Et nous rappelons que nos moyens de contact sont les suivants, les 081 890 63 15. Et vous avez également la possibilité de nous rejoindre à l'adresse, notre adresse, pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Edemaga, vous êtes à Butembo, vous avez l'honneur d'ouvrir les débats du jour. Edemaga, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et aussi bonjour à vous, Jérémy.
Voilà, il est dit, au cours de la session parlementaire de ce mois de septembre, l'Assemblée nationale a retenu dans son calendrier l'examen de la proposition des lois organiques instituant la Commission nationale des droits de l'homme. Pensez-vous que cette commission pourrait contribuer à l'amélioration du respect des droits de l'homme en RDC, Edemaga?
Oui, ça pourrait contribuer si le gouvernement prenait vraiment la rigueur, vraiment. Parce que vous voyez, chez nous, tel qu'ici, ici au nord qui vous nous sommes, quand on vient, par exemple, quand quelqu'un commet par tel qu'un dégât, ouais, on vient l'arrêter, on le torture, même si la personne à laquelle on est venu arrêter, il reconnaît sa faute, on torture la personne de la manière vraiment qui n'est pas admirable, quoi. On ne reconnaît pas les droits de l'homme, on traite les gens d'une façon vraiment bête. Alors, nous ne savons pas si c'est pourquoi ça. Alors, si le gouvernement prenait vraiment une rigueur, ça allait être souhaitable quand même qu'on puisse faire des affaires pareilles pour que nous puissions quand même être bien, pour que les droits de l'homme puissent être
assis au... Voilà, merci beaucoup Edemaga. Nous retenons que vous appelez le gouvernement à une implication ou à une prise de conscience par rapport à cette commission qui sera mise sur pied et que vous demandez au gouvernement de s'impliquer pour assurer le respect des droits humains. Donc il faut mettre les garde-fous. Donc vous posez là la question sur le garde-fou à proposer pour éviter que cette commission puisse sortir des décisions et qui resteront parfois des lettres mortes. Merci Edemaga. Marcel, vous êtes à Kisangani. Bonjour Marcel.
Bonjour JR, bonjour auditeurs de la radio Capi.
Voilà Marcel, comment réagissez-vous?
Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par rafraîchir la mémoire de tous les auditeurs. La question des droits de l'homme, il faut d'abord commencer par évoquer la DIDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faudra aussi passer par la commission, la charte africaine, en fait, j'allais dire, des droits de l'homme et des peuples. Et au niveau de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il a été institué une commission africaine aux droits de l'homme. Et aussi, et une cour africaine des droits de l'homme. Mais, comme toujours et comme africain, vous savez ce qui se passe, tous ces textes sont foulés aux pieds. Maintenant, s'agissant de la Commission nationale aux droits de l'homme. Je vous dis, monsieur JR, jusque-là, nous avons encore le problème pour connaître est-ce que cette commission sera telle composée et de partenaires ou des experts qui viendront de l'étranger, en fait, des experts internationaux. Et à cela, on pourra aussi ajouter nationaux, puisque une cour nationale composée des Congolais, en tout cas, ça ne rassure pas du tout que cette commission, à mon avis, ce ne sera pas une commission répressive, ou si tel est le cas, puisque l'invité peut-être pourra nous dire ce que cette commission aura comme tâche. Elle pourra jouer un rôle répressif, cela pour dans le sens de réprimer tout cela ou tous les violateurs des droits de l'homme. Ça aussi, c'est un autre problème. Et je crois, quant à cela, que pourrait peut-être interpeller ou en appeler à la conscience de tous les dirigeants qu'il ne vaut pas de multiplier des textes sans, et qui ne seront jamais respectés, mais plutôt, il faut être à la hauteur de faire respecter ces textes et de les respecter. Et aussi, vous savez, en 2011, il a été mis à jour la loi portant la torture. En fait, la torture a été érigée en une infraction, puisque cela aussi font des souliers. Beaucoup de tortionnaires, ce sont en fait des animateurs des institutions publiques. Et cette loi, nous ne savons pas où en est-on, est-ce qu'elle est mise en pratique, puisque nous avons des tortionnaires par-ci par-là, mais qui ne sont jamais inquiétés, pendant que la loi sur la torture est déjà
adoptée
en vigueur. Elle a été déjà promulguée par le président de la République. Voilà un peu autant de questions qui nous fait savoir que bien que cette Cour nationale aux droits de l'homme sera en fait nécessaire, elle ne pourra pas vraiment jouer un rôle qui sera celui en fait d'un rôle répressif, surtout pour en fait décourager toutes ces pratiques de violation des droits de l'homme que font d'habitude nos dirigeants. Que vous savez, la population est vraiment victime de toutes ces pratiques de la part de nos dirigeants.
Merci beaucoup, Marcel. On va quitter Kisangani pour aller à Kikwit, retrouver Arsène. Arsène, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comment réagissez-vous, Arsène?
Bon, je commence d'abord par féliciter cette initiative. Je présente aussi mes inquiétudes. Parce que les gens qui se disent faiseurs de la loi ne savent pas exécuter. Le problème, c'est quoi? Le Congo est vraiment touché de l'abandon complet des droits de l'homme. Voyez un peu ce qui se passe à l'Est. Ce qui se passe à l'Est est tellement regrettable. Comment je peux expliquer ça? Les mêmes personnes qui sont censées mettre en application le droit de l'homme ou droit de l'humanité, ce sont ces mêmes personnes qui s'organisent à créer tout ce qu'il y a comme méfait qui se trouve à l'Est. Si nous partons de l'Est, nous venons ici de l'autre côté à l'Ouest. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On voit de toutes les couleurs. Nous n'avons pas des cachots, nous avons plutôt des chambres à torture. Et quand quelqu'un est dans ses droits et qu'il n'a pas des moyens financiers en main, non, on s'en fout de lui. Aujourd'hui, l'initiative est là. On va faire ce qu'on appelle une commission de droits de l'homme. Nous avons vraiment besoin de l'assistance internationale, de gens de bonne volonté qui peuvent nous aider à mettre en application ce respect-là. Parce que ce respect-là, ce n'est pas seulement dans la loi, c'est naturel. Ça vient de la nature, ça vient même de la création de l'être humain. Mais alors, le mettre en application devient tout un problème parce que les mêmes personnes qui sont censées respecter et mettre en pratique le droit de l'homme, ce sont les mêmes personnes, même cachées, et ce sont eux qui sont en train de tout détruire. Aujourd'hui, Arsène est en train de s'expliquer. Mais vous savez pas combien de difficultés que j'ai quand je circule. Parce que je dis quelque chose, l'expression seulement, la libre expression, cause des ennuis. Mais comment on peut faire? On ne peut réussir que cette histoire dans une lutte perpétuelle. Parce que la nation congolaise est en péril. La nation congolaise est en péril.
Oui, rapidement.
C'est au mauvais comportement des gens qui doivent mettre la loi en application.
Alors, qu'est-ce que vous proposez, Arsène?
Ce que je propose, c'est une rigueur. Une rigueur de la part de la communauté internationale qui nous assiste. Je crois que notre invité a bien expliqué la situation. Aujourd'hui, il faut que cette même communauté nous assiste au lieu seulement de venir nous donner des cadeaux ou peut-être un peu de bouillie aux enfants qui sont dispersés par-ci par-là. Il faut que cette communauté puisse nous aider à détruire ou à démanteler ce système qui est en train de nuire. Voilà, c'est voilà. Ce que je voulais un peu dire, voilà, et demander directement à notre invité de m'apporter secours à ma demande.
Voilà, merci beaucoup Arsène d'avoir participé à cette émission. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez également, disons, nous envoyer vos réactions à pa@radiocapi.net. Nous avons dans ce studio Scott Campbell, qui est notre invité, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Vous avez suivi les uns et les autres, hein, surtout, bon, les inquiétudes vont dans le sens au fait de tourner autour de non-respect des droits de l'homme qu'on enregistre souvent dans les chefs des autorités qui sont censés normalement protéger ces personnes. Comment réagissez-vous, M. Scott?
Oui, je pense que les interventions étaient très très pertinentes. Et surtout soulignent le fait qu'on a besoin aujourd'hui d'un mécanisme indépendant, un mécanisme national, en forme d'une commission nationale des droits de l'homme, qui est efficace, qui prend des actions. J'entends les auditeurs parler de leur frustration qu'il y a, il y a beaucoup de cas de violation des droits de l'homme sans une réaction efficace. Et donc je pense qu'aujourd'hui ce qui est important c'est qu'il y a du potentiel, il y a une vraie fenêtre d'opportunité avec la loi qui est sous traitement au sein du Parlement de créer quelque chose qui est efficace, quelque chose qui peut prendre des actions. Mais, et je pense que le premier auditeur a soulevé ce point.
Oui, mais le crédit que la population pourrait accorder à cette commission, parce que voilà. L'auditeur a dit aussi longtemps que cette commission ne sera composée que des Congolais, et dans bien des cas, ce sont les mêmes autorités qui seront, ou le politique, qui vont se retrouver dans cette commission, rien ne sera fait.
Effectivement, et donc je pense que l'importance de cette loi, c'est le contenu de cette loi qui est important. Quels seront les termes des derniers, la composition? Est-ce que c'est la société civile qui va choisir? Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est l'exécutif? Qui va choisir? Et c'est combien de personnes? Et ces personnes, ils auront quelle qualité en tant que commissionnaire? Quel pouvoir est-ce que cette commission aura? Est-ce que cette commission pourrait recevoir des plaintes et en faire quelque chose de concret? Est-ce que cette commission aura de poids? Est-ce que cette commission aura de l'indépendance financière? Ou est-ce que cette commission, un, n'aura pas de moyens, ou deux, aurait des moyens, mais sous des conditions? Donc, effectivement, je pense que si la population va croire dans cette commission, tout dépendra de ses actes, mais ses actes et son pouvoir dépendra, encore une fois, de la loi qui est sous traitement.
Oui, il y a un auditeur qui a proposé, en tout cas, l'implication totale de la communauté internationale. Parce que là, vous évoquez le problème financier, parce que l'indépendance de cette commission reposera sur cette indépendance aussi, dans la confiance que la population peut avoir. Il faudrait que cette commission ait les moyens de sa politique.
Oui, tout à fait. À travers le monde, la plupart des commissions des droits de l'homme sont appuyées par les gouvernements, principalement. Et la porte est aussi ouverte pour beaucoup des commissions de recevoir des dons, des subventions aussi de différents bailleurs de fonds, mais tout en respectant leur indépendance. Et c'est ça qui est clé. Donc je pense que pour la communauté internationale, il y a déjà une forte implication sur le plan technique pour rédiger ou pas pour rédiger, mais pour donner les exemples de où il y a des bons exemples des lois pour partager avec les parlementaires pour leur considération.
Mais c'est ce qui est plus étonnant, la République démocratique du Congo est également considérée dans les cadres de l'IEDDH, donc l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, comme un pays prioritaire. Mais on ne sent pas ça sur le terrain. On ne sent pas au fait l'implication de la Commission européenne par rapport au respect des droits de l'homme sur le terrain, parce que vous venez de dire tout à l'heure, par rapport au conflit que nous connaissons, on sent que le niveau de respect est vraiment trop faible.
Bon, je ne peux pas parler pour la Commission européenne, mais au sein des Nations Unies, je peux dire que c'est une grande, grande priorité, que nous sommes extrêmement actifs en ce qui concerne le sujet du jour, surtout cette loi. Mm-hmm. Et j'imagine que s'il y a une commission qui est créée suivant les principes internationaux, il y aura un appui qui viendra de la communauté internationale. Ça, je n'en doute pas.
Voilà, M. Scott Campbell, le temps nous fait défaut, en tout cas parce que vous avez d'autres préoccupations. Nous allons poursuivre cette émission avec Eve Bazaïba, qui est députée nationale, pour avoir aussi d'autres précisions par rapport à la composition de cette commission, sa portée juridique sur les auteurs des violences des droits de l'homme, la question aussi des poursuites judiciaires. Voilà, on aurait souhaité vraiment continuer avec vous, mais on s'est obligé, en tout cas, de nous arrêter là avec vous. Merci, Scott Campbell. Nous rappelons que vous êtes directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Merci à vous, à bientôt.
Voilà, nous avons en ligne plusieurs auditeurs qui attendent aussi de répondre, d'intervenir dans cette émission. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez aussi nous rejoindre au 081 890 43 39.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Maurice, vous êtes à Kinshasa, Jean-Pierre Aïssiro et Jado à Lubero. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles.
Voilà, Maurice, quelle analyse faire de cette commission qui pourrait donc que propose le Parlement pour gérer la question des droits de l'homme dans notre pays?
Merci, Gilles, pour la parole. Il me souviendra que une fois vous avez lancé un débat sur la francophonie où on parlait de l'arrivée de François Hollande. Je me souviens que j'avais fait une intervention où je parlais des conditions qu'avait posé le président français pour son arrivée ici à Kinshasa par l'entremise de son envoyé spécial, madame déléguée à la francophonie. Il était question de certaines recommandations, notamment sur la restructuration de la CENI, et sur le respect des droits de l'homme, notamment les dossiers de Robert Schneider. Aujourd'hui, je pense que même pour ceux qui disent que c'est une victoire diplomatique, moi je pense que c'est vraiment d'abord Hollande nous a fait quand même honneur parce qu'il a pu imposer la restructuration de la CENI évidemment les droits de l'homme aujourd'hui où on parle déjà de cette
la commission nationale des droits de l'homme.
Oui. Alors moi je pense que c'est une honte d'abord pour notre pays parce que certaines initiatives qui devraient être prises par le gouvernement cela est vraiment objet d'une pression extérieure. Donc cela démontre en suffisance que nous avons un gouvernement qui ne tient pas compte d'abord de la valeur humaine, du respect des droits et des libertés des individus dans notre pays. Alors, moi, pour ceux qui ont commandité cette décision, qui ont diligenté la communauté internationale notamment, je pense que vraiment nous voudrons attendre à ce que cette pression puisse continuer à s'exercer sur ces autorités, sur ces gouvernements, qui ne peuvent qu'agir sous pression de cette communauté.
Voilà,
on sait qu'en longueur des journées...
Oui, Maurice, je retiens que vous êtes favorable à la mise sur pied de cette commission nationale, c'est ça?
Je suis bien favorable, mais je ne suis pas favorable par rapport à cette initiative.
Voilà, à quel niveau?
Du gouvernement, parce que vous allez comprendre qu'à chaque fois quand on veut constituer ce genre de commission, vous allez comprendre qu'il y aura toujours... des tendances à les faire par rapport aux intérêts.
Voilà, vous proposez quoi?
Bon, je propose que cela puisse se faire, cette commission, on veut qu'il y ait vraiment des gens qui se soucient réellement du bien-être, du respect plutôt des libertés et des droits, réellement qui vont vraiment s'atteler sur cette matière, afin qu'on ne puisse pas avoir des histoires fantaisistes et qui vont aller dans le sens à satisfaire ou bien à promouvoir encore vraiment la, les gens qui font cette...
Voilà, merci beaucoup Maurice. Jean-Pierre, vous êtes à Issiro. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle analyse faites-vous?
Bon, notre analyse, est, c'est que bon, ça, c'est d'abord la bienvenue, cette commission, et vu les problèmes des droits de l'homme qui se posent dans notre pays, nous ne pouvons pas citer, si nous pouvons les citer, vous savez, par exemple, la situation de la liberté de la presse. Il y a plusieurs journalistes qui sont les plus souvent arrêtés, qui sont les plus souvent agressés, les morts des activistes des droits de l'homme et tout consort. La justice qui n'est pas indépendante, il y a plein de problèmes. Mais là où nous nous posons des problèmes est de savoir si la mission même de cette commission sera donc exécutée comme il le faut. Puisque vous savez que au Congo, nous prenons des décisions et surtout quand il faut quand il s'agit des questions des droits de l'homme, ça pose problème. Cette proposition vient de l'extérieur. C'est avec la francophonie qui a, c'est même la francophonie qui a poussé à ce que nous puissions arriver à la mise en place rapide de cette commission. Alors nous ne savons pas si vraiment, comme la volonté n'est pas de notre gouvernement, si tout cela va se mettre en pratique comme il le faut. Et nous proposons que les financements de cette commission ne soient pas surtout, ne dépendent pas surtout de notre pays, mais que ça soit plus financé des institutions des droits de l'homme de l'extérieur, et que les personnes qui vont composer cette commission, que ce soit pas de la majorité et ni de l'opposition, mais plutôt qu'on puisse prendre l'église, les églises...
Au sein de la société civile, vous voulez parler de la société civile
pays. Les églises, on peut prendre des églises protestantes, catholiques, même les églises du réveil, même l'église musulmane, pour que nous puissions avoir donc là des personnes qui ne vont pas dire qu'on nous a accusés pour ceci, puisqu'ils sont de la majorité ou pour les pouvoirs, mais plutôt des personnes qui sont indépendantes, hein, puisque nous respectons beaucoup les points de vue des églises, hein, et puis souvent nous respectons leurs points de vue, puisque nous sentons quand même un peu de l'objectivité dans leur dénonciation. C'est pour cela que nous proposons à ce que l'Église puisse tenir ça. Mais si on met la majorité et les pouvoirs là, non, nous ne pensons pas que ça va marcher. Et voilà. Tous les financements, ça dépend toujours des pays ou des institutions du pays. Ils vont toujours essayer de faire taire ou de ne pas financer des enquêtes sur certains atteintes des droits de l'homme.
Voilà, merci Jean-Pierre. Jadot, vous êtes à Loubero. Bonjour.
Ouais, bonjour, Gère, bonjour tous les auditeurs de la radio Okapi, c'est Jado Kachouva, depuis le Soussou du Masséré, 4 hectares de l'Ouvert, province du Nord-Kivu. La thématique du jour, elle est très très importante, d'autant que c'est un sujet actuel. Mais quant à moi, je ne suis pas d'accord à la mise en place de cette structure-là, parce que c'est une structure de trop. Nous ne pensons pas que c'est une nouveauté ou... Parce qu'on se pose la question de savoir quelle sera leur feuille de route. Parce que, à savoir, la République démocratique du Congo, c'est un état de droit. Et quand vous voyez la constitution de 2006, du 18 février 2006, en son article 11, on dit que tous les êtres humains naissent libres, égaux, à dignité et en droit. À son article 12, on réaffirme que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Et vous voyez à côté, il y a ce qu'on appelle le code pénal. Le code pénal définit la répression générale des infractions et définit aussi les infractions en général. Alors les structures chargées de réprimer ces infractions-là, ces structures sont bien définies. Il y a les structures de dénonciation, il y a aussi des structures de répression. Quelles sont les structures de dénonciation? Ce sont les ONG de défense des droits de l'homme. Ces ONG de défense des droits de l'homme existent bel et bien. Parce qu'il faut rappeler aussi quels sont aussi les droits de l'homme dont on parle. Il y a des droits civils et politiques. Il y a aussi des droits sociaux et économiques. Les ONG de défense des droits de l'homme chargés de défendre les droits civils et politiques sont dans les cadres politiques des ONG de défense des droits de la femme, des ONG de défense des droits des citoyens. Elles existent, elles sont très nombreuses en RDC Congo. Les ONG socio-économiques, ce sont des syndicats patronaux, par exemple. ce syndicat-là existe bel et bien. Elle dénonce souvent. Mais qu'est-ce qui fait que les droits de l'homme ne sont pas respectés en RD Congo? Il y a deux problèmes. Le problème, c'est la convoitise des minéraux de la communauté internationale dont on parle. Parce que vous voyez, chaque jour, il y a violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourquoi la communauté internationale, notamment les Nations Unies, toutes les structures des Nations Unies, soit la MONUSCO, elle est en République du Congo. Il y a une structure chargée de défense des droits de l'homme. Il y a dans chaque antenne de la MONUSCO cette structure-là de défense des droits de l'homme. Pourquoi les droits de l'homme continuent toujours à être violentés chaque jour par des groupes rebelles et par des multinationales internationales et que la communauté internationale n'arrive pas à condamner ces ONG qui financent les groupes de rébellion? C'est ça la grande question qu'on se pose. Moi, je crois que pour résoudre la question des violations des droits de l'homme en RD Congo, nous devons être tous sincères, savoir que l'homme naît meurt et joue. Et quand nous mourons, Dieu nous a créé
rapidement, Jadot.
Et de jouir de nos libertés et de jouir de tout ce qu'il a mis comme richesse sur la planète Terre.
Mais voilà, Jadot,
comment
Jadot.
Un échange est égal.
Voilà, s'il vous plaît, Jadot, voilà, donc nous retenons que votre souci tourne autour de contenu même de la commission, quel est le travail que cette commission pourrait faire et quel sera son impact. Merci, Jadot. On va prendre directement Julien Attacla, à Hinon, coordonnateur de l'unité formation, renforcement institutionnel et sensibilisation au bureau conjoint des Nations Unies pour les droits humains. Alors, Julien, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi Jadot tout à l'heure, qui a même tout de même des inquiétudes hein, par rapport au travail que fait le bureau pour assurer le respect des droits de l'homme en RDC. Alors, si vous pouvez peut-être nous rappeler le travail que fait que font les Nations Unies donc sur le terrain pour le respect des droits humains.
Merci beaucoup. Il faut préciser que les Nations Unies n'ont pas la responsabilité première du respect des droits de la personne humaine en RDC. Cette responsabilité incombe au gouvernement de la RDC et toutes les institutions étatiques qui ont en charge d'appliquer les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires qui ont trait aux droits de la personne humaine. Les Nations Unies sont là pour accompagner. Donc c'est une assistance technique, une coopération technique pour appuyer le gouvernement de la RDC à pouvoir remplir et respecter ses engagements internationaux en matière de droits de la personne humaine. Vous savez que la RDC a ratifié plusieurs traités, plusieurs conventions relatives aux droits de l'homme et la RDC périodiquement doit soumettre des rapports à différents organes de traité pour rendre compte de la manière dont elle est en train d'appliquer ces différents traités, ces différentes conventions. Et donc, ces rapports, pour les élaborer, il y a des normes, il y a des manières de le faire. Donc, le Bureau des Nations Unies, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, appuie dans ce domaine. Encourage également le gouvernement à ratifier les instruments qui n'ont pas encore été ratifiés et assure une certaine veille à travers le travail de monitoring que le BCNUDH fait dans l'ensemble des provinces où nous avons des bureaux, où chaque fois que cela est possible, nos collègues vont sur le terrain et essaient d'observer ce qui se passe. Ils visitent les centres de détention, les cachots de la PNC, tous les lieux où
les personnes... C'est pas toujours facile hein, quand vous faites la visite des cachots. Hein.
Évidemment, il y a des défis encore à ce niveau, il y a des difficultés par rapport à certains lieux de détention où on n'a pas toujours l'accès facile et où il faut faire le plaidoyer. Mais ces tâches, normalement, sont des tâches qui devraient incomber à des institutions nationales. Et c'est pour cela que c'est très important et c'est pour cela aussi que le bureau encourage et apprécie l'initiative du Parlement de donner vraiment la priorité à cette proposition de loi portant création d'une Commission nationale des droits de l'homme. Ce sont des tâches qui devraient, in fine, incomber à une institution comme celle-là, et qui, ici, elle est bien dotée de tous les pouvoirs, de larges pouvoirs consultatifs, d'investigation, de promotion, de protection des droits de l'homme, cela pourra avoir un effet bénéfique sur le respect des droits de l'homme dans le pays.
Voilà, nous avons aussi dans ce studio Madame Eve Bazaïba qui nous a rejoint d'ailleurs, parce qu'il y a des questions liées à la composition de cette commission et aussi sa portée juridique sur les auteurs des violations des droits de l'homme. Madame Eve, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, alors d'entrée de jeu, nous avons suivi les auditeurs tout à l'heure. Hein, tous reviennent sur, honorable, voilà, Madame Eve Bazaïba, qui est honorable et qui est à l'Assemblée nationale. D'abord, les auditeurs aimeraient savoir quelle sera la composition d'abord de cette commission nationale.
Oui, merci pour la question, monsieur le journaliste. Si vous permettez, j'ai suivi les auditeurs, j'ai suivi les débuts de l'émission. J'aurais voulu faire quand même quelques mises au point, notamment en ce qui concerne la proposition de la loi sous examen. Je voudrais dire que ça n'a rien à voir avec une initiative venue de l'extérieur. C'est une proposition de loi qui a suivi tout un processus. D'abord, à ce stade actuel, je me réjouis de dire que la Commission nationale des droits de l'homme, elle va s'appeler Commission, certes, mais n'a pas commencé aujourd'hui. Moi-même, qui vous parle, j'ai participé à l'élaboration d'une résolution au dialogue intercongolais pour la mise en œuvre de l'OCDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, qui a fonctionné pendant la période de transition. Le besoin était un besoin intérieur, ce n'était pas pour la consommation extérieure, c'était un besoin dicté par le fait que le Congo, c'était un pays, déclaré un pays post-conflit, même s'il y a encore des poches de résistance. Et au niveau du Sénat, après la transition, c'était l'initiative proposée par un collègue sénateur, l'honorable sénateur Mwamba Mwamoussi Moussukonke, qui est aussi un défenseur des droits de l'homme, avant d'être dans les institutions politiques, notamment le Sénat. Et moi-même, en tant que président de la commission socioculturelle, j'ai dirigé les travaux pour l'examen de cette proposition de loi qui a été adoptée régulièrement au Sénat, envoyée à l'Assemblée nationale. Et par concours des circonstances, aujourd'hui, je suis président de la commission socioculturelle à l'Assemblée nationale en collaboration avec nos collègues membres de la commission PAJ, politique administrative et juridique, la plénière de l'Assemblée nationale et les bureaux nous ont confié la responsabilité au sein d'une commission spéciale pour pouvoir procéder à l'examen de cette loi. Il faut dire que, entre-temps, beaucoup de choses ont évolué. Donc, si aujourd'hui nous allons adopter la proposition de loi sur la Commission nationale des droits de l'homme, elle sera différente de l'Observatoire congolais des droits de l'homme qui a fonctionné pendant la période de transition par rapport à sa composition, à son organisation et à son fonctionnement. Il y a des donnes. À l'époque, nous avions tenu aussi compte des standards internationaux, une convention où nous nous sommes entendus par rapport aux commissions, aux institutions nationales des droits de l'homme au niveau de chaque pays. Il y a ce que nous appelons les principes de Paris. Alors, et nous tenons compte donc de ces principes de Paris dans l'examen de cette loi. Nous nous inspirons de ça. Nous tenons compte dans la composition telle que nous sommes entendus au niveau du principe de Paris, mais aussi des besoins spécifiques du Congo. Par exemple, lorsque le principe de Paris parle des responsables de la société civile, de la société savante, des ONG des droits de l'homme, des corps professionnels, etc. Mais le Congo, nous avons besoin de la représentation aussi des personnes vivant avec handicap. C'est une donne spécifique au Congo en tenant compte qu'il ne dérange, qu'il n'énerve pas le standard international des mises en place, des compositions des ONG des droits de l'homme. Alors, dans cette composition, c'est encore une proposition que nous sommes en train d'étudier au niveau de l'Assemblée nationale. Nous vous disons que on va donner plus d'attention aux personnes qui manipulent les questions des droits de l'homme, aux experts, je voudrais dire. Dans ces experts, il y a la catégorisation. Il y a un auditeur qui a parlé de la catégorisation donc des matières de droits de l'homme. Nous avons les droits des premiers, des premières générations, les droits civils et politiques, donc les questions de lutte contre la torture, les questions de droits de vote, des droits civils et politiques, comme on l'a dit, les droits économiques, sociaux et culturels. Et puis, il y a la troisième génération, les droits collectifs, le droit à la paix, le droit au développement, un environnement sain, etc. Et puis, il y a des droits spécifiques.
Oui, mais en réalité, les auditeurs aimeraient bien se faire une idée hein, si les politiques ne pourraient pas se retrouver dans la composition de cette commission.
Parce il y a des incompatibilités. Voilà. On n'a pas parlé de politique. En fait, je voudrais aussi clarifier. Lorsqu'on pense que les politiques vont se retrouver, je pense que la société civile devait se prendre en charge. Moi, je suis passé par la société civile, je sais comment ça fonctionne. Même dans l'OCDH, pendant la transition, s'il y avait des politiques au sein de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, parce que la société civile a voulu aussi participer à la matière politique. Au dialogue intercongolais, la société civile a dit, nous voulons avoir un œil contrôleur au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat et au gouvernement. C'est pourquoi la composante société civile avait eu droit à 94 députés, 22 sénateurs, 7 ministres et 4 vice-ministres. Mm-hmm. Alors, c'était la même question. Les politiques aussi ont dit, dans ces cas, pour les institutions citoyennes d'accompagnement de la transition, de la démocratie plutôt, nous aussi politiques, nous devons avoir un œil là-bas, même si toutes les 5 commissions vont être dirigées par la société civile. On doit inclure aussi autres composantes et entités. Tout est parti de la société civile. Alors, c'est devenu comme un cycle infernal. Maintenant, la population qui en a empathie commence à craindre la participation de la politique. Mais pour le moment...
C'est vraiment une grande crainte. Et puis, c'est l'inquiétude qui... parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, bon, on sait comment les choses se passent dans notre pays. Je crois. C'est l'inquiétude, d'ailleurs, de plusieurs auditeurs. On verra, pour la mise en place de la composition de cette commission, les gens vont se diviser. Il y aura d'un côté la majorité, de l'autre l'opposition. Bref, on aura à mettre des temps inutilement à discuter sur les noms, le sexe des anges, bon, on ne sait pas... Selon vous, quelles sont les garanties que vous donnez à la population actuellement que la commission d'abord sera indépendante et pourrait travailler à toute indépendance?
Oui, les garanties que je donne à la commission pour l'indépendance, d'abord la prise en compte des principes de Paris. Il y a l'indépendance, l'autonomie de la constitution et de la composition. Et puis il y a l'article 13 qui parle des représentants des organisations non gouvernementales et des droits de l'homme, des droits spécifiques des femmes, des enfants, les représentants des ordres professionnels, les représentants des organisations socio-professionnelles dont les syndicats, les représentants des universités experts, les représentants des confessions religieuses, et je vous ai parlé de la nouvelle donne des représentants des personnes vivant avec handicap. Autre garantie, c'est l'article 16 sous examen qui parle des incompatibilités. Donc, la qualité des membres de la commission est incompatible avec des fonctions telles que membre du gouvernement, membre d'une institution de la République et celle d'appui à une autre institution d'appui à la démocratie, membre des forces armées, de la police nationale, des services de sécurité, des magistrats, agents des carrières des services publics de l'État, cadre à la territoriale, mandataire public, membre des cabinets des institutions politiques et autres institutions d'appui à la démocratie, on l'a dit, employés dans les entreprises publiques et membres d'un parti politique. Donc, ça, ce sont des verrous que nous avons mis, mais il faudrait maintenant que la société civile s'assume, parce qu'il y a des critiques au sein de la société civile pour dire que c'est une société civilement politique. Donc cette société civile doit faire un effort. Je ne dis pas que tout le monde est baigné dans ce système. Il y a des exceptions, comme dans toute règle. Il y a des exceptions, mais il est demandé à la société civile de faire un effort, de nous donner, de nous présenter des personnalités qui inspirent confiance de tous les côtés. Parce que la Commission nationale des droits de l'homme qui partira de cette société civile qui sera composée, il ne faut pas qu'au niveau des partis politiques, on sente qu'il y a l'antagonisme. Il ne faut pas qu'au niveau des institutions de l'État, on sente qu'il y a l'antagonisme. Parce que les principes de Paris recommandent même la coopération avec les institutions. institutions de l'État, avec les institutions d'autres organismes qui poursuivent les mêmes objectifs, parce que qui est défenseur des droits de l'homme? Défenseur des droits de l'homme n'est pas nécessairement celui qui est seulement dans une ONG. Oui. Moi, je suis au Parlement, je peux me déclarer défenseur des droits de l'homme par rapport à la législation. Un ministre chargé des questions, par exemple, des questions sociales, des questions des gens, et peut être considéré défenseur des droits humains, mais ce n'est pas mais ce ministre et moi, le parlementaire, j'ai des positions politiques tranchées. C'est ça la subjectivité qui rentre. Mmh. Mais nous voulons maintenant que la société civile puisse s'assumer avec objectivité pour inspirer confiance. Nous savons qu'il y aura toujours des problèmes lorsqu'on aura à dénoncer, mais ce n'est pas une raison. Lorsque quelqu'un dénonce que c'est dans la vérité, ce n'est pas de la démagogie, et l'institution société civile sera respectée.
On va revenir à vous, Madame Bazaïba, pour parler un peu de financement de cette commission. Est-ce que c'est le gouvernement qui va prendre tout en charge? On prend d'abord les auditeurs, une dernière série des auditeurs. Dadi qui est à Kinshasa, et Théo à Mbujimayi, et Raphaël à Lubumbashi. Dadi, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, JR.
Voilà, comment réagissez-vous, Dadi?
Oui, ma réaction est simple. La question que moi, je m'avais à poser à l'honorable Eve Bazaïba est de savoir la mission, quelle serait vraiment la mission de cette commission? Et c'est pour arrêter et déférer devant les juridictions compétentes les violateurs des droits de l'homme, ou bien cette commission va se limiter tout simplement à formuler des recommandations auprès des cours et tribunaux. Et la proposition, c'est que moi je pense que dans un État qui se respecte, le respect ou bien la sauvegarde des droits de l'homme ne se fait pas par une commission, mais plutôt par l'État à travers ses différentes institutions. Et principalement, nous voyons les cours et tribunaux. Et la meilleure des choses à faire, c'est quoi? Quand bien même il y aura la mise en place de cette commission, mais ce qu'il faut faire, c'est de militer, lui, à sa qualité de parlementaire, de militer à ce que de plus en plus nos cours et tribunaux soient vraiment indépendants, à ce que les décisions qui sont prises au niveau de ces cours-là soient plus indépendants, parce qu'on peut mettre en place cette commission, mais si le droit de l'homme n'est pas respecté, vous voyez qu'il n'y aura rien vraiment de concret dans cette affaire.
Merci beaucoup, Dadi. Donc, votre inquiétude va dans le sens de la nature même, de la nature juridique de cette commission. Est-ce que sera répressive ou elle va se limiter simplement à dénoncer ou à faire des recommandations? Merci, Dadi. Théo, vous êtes en Mbujimayi. Bonjour, Théo.
Bonjour, c'est Théodore.
Oui, Théodore, vous êtes à Mbujimayi.
Ok. Bonjour, merci pour la parole. Je pense que la proposition d'une commission des droits de l'homme au Parlement pourra dépister les mal incarnés dans les auteurs des crimes en relation des droits de l'homme. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et on doit chercher à mettre les droits dans l'égalité sur la protection dans l'ensemble. J'enchaîne en disant que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Chose que le ministère de la Défense et Sécurité a échoué pour mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés de l'Est aux terres des violations des droits de l'homme dans toutes ses formes. C'est ainsi que je reviens aux initiateurs de cette proposition d'inclure, pour moi, la société civile et les syndicats de l'informel, tout comme du formel, pour faire respecter les droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion, droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique. Vous savez, ici chez nous, en Mbujimayi, nous avons l'électricité, mais cette électricité est servie seulement pour les riches. L'électricité est là, mais c'est pris comme luxe par des riches, et pour nous, c'est du calvaire. C'est très difficile d'avoir de l'électricité. Il y a une partie qui est dans l'éclairage toutes les années, mais il y a l'autre partie qui est dans l'obscurité. Et nos enfants, quand il y a coupure du courant de l'autre côté.
Oui, Théodore. Oui, Théodore.
Tout ça.
Oui, Théodore.
Le courant part de l'autre côté.
Voilà, Théodore.
Voilà, nous sommes vraiment privés.
Voilà, Théodore. Donc, nous retenons que vous proposez que la société civile soit vraiment très impliquée dans cette commission nationale. Merci, Théodore. Raphaël, vous êtes à Lubumbashi. Okay. Bonjour, Raphaël.
Oui, bonjour, c'est Raphaël Etemunga.
Vous êtes à Lubumbashi?
Oui, je suis à Lubumbashi.
Voilà, comment réagissez-vous?
Oui, moi, en tant que politologue de formation, j'accepte ça, cette commission, mais Le problème est qu'il y a beaucoup de commissions qui sont présentées auprès de notre gouvernement. Surtout, nous avons connu Tolérance Zéro. Il y a beaucoup, il y a des justices hyper, mais c'est là, tout au début par rapport à l'appellation de cette commission. On s'attendait à des bonnes choses, mais lorsqu'on regarde la finalité, il n'y a que le contraire. Ces gens qui accordent certaines fonctions là n'agissent pas sentiment. Et comme vous savez, cette commission-là des droits de l'homme fait partie des groupes de pression. Les gens qui poussent les gouvernants à dire les droits. Mais lorsque nous retrouvons qu'ils commencent à agir par sentiment, vous voyez que c'est le contraire. Et ce que nous les conseillons est que, comme ils ont eu cette responsabilité, ils doivent accomplir ou faire ce qui est demandé, ce qui dit notre constitution.
Voilà, merci Raphaël. Ismaël, on reste encore à Lubumbashi avec vous. Ismaël, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tout l'auditeur de la Radio Capi.
Comment réagissez-vous?
Bon, je réagis par rapport aux droits de l'homme. Au fur et à mesure qu'on a promulgué cette initiative, nous encourageons. Et ce pays, une fois à Kinshasa, il y avait le bureau de consultation gratuite abrégé CSTG. Mais ce bureau devait poursuivre à tous ceux qui étaient soit arrêtés pour un motif qui ne respectait pas les normes de la loi. Et actuellement, on ne sait même pas. C'est encore à Kinshasa. Et ceux qui peuvent d'abord respecter la loi, soit les droits des citoyens de la République démocratique pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient d'abord prendre en conscience la loi et notre chemin dont tous nous suivons. Et remarquez un peu, par exemple, si nous respectons les droits, on a publié dernièrement qu'on devait payer 24 000 dollars, on a quitté 2 000 dollars. Ce sont les citoyens, ce que je vais illustrer, ce sont les citoyens eux-mêmes qui bafouent la loi ou les droits des autres. Alors, nous devons prendre en compte la sécurité. Par exemple, le premier ministre Lumumba a dit, nous vivons dans un droit, dans un pays où chacun a ses propres droits et ses devoirs. Aujourd'hui, où se trouvent les droits de chacun de nous? Nous devons d'abord nous demander, nous faire la rétrospection de ce qui était la République démocratique du Congo. Ça, c'était une république. Ça, c'est une république du Congo plutôt que la République démocratique du Congo, parce que les citoyens eux-mêmes, qui élisent même le peuple, les députés et les autres, ne prennent pas en compte ce qu'ils devaient faire. Quand il y avait les congés parlementaires, ils ne sont même pas venus pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et dans l'armée, présentement, on enregistre seulement les analphabètes. Remarquez un peu, quand je suis étudiant, ce qui se passait par le militaire, ils ne
mettaient
même pas les études. C'est-à-dire
qu'ils sont Ismaël.
Ceux qui ont un niveau élevé d'études, ils pourraient prendre en compte de ce dont ils pourraient soit protéger, soit poursuivre pour un mandat de temps.
Voilà, merci Ismaël. Nous revenons encore dans ce studio avec l'honorable Eve Bazaïba et Julien Atakla Aïnou pour commenter également les réactions des auditeurs. On commence avec vous, honorable Eve Bazaïba. C'est vrai, il y a beaucoup d'inquiétudes. Les gens n'y croient pas, surtout à l'indépendance de cette commission. J'avais posé la question tout à l'heure, la source de financement. Est-ce que c'est le gouvernement qui va prendre en charge cette commission ou bien ce sont les partenaires qui vont également, comme toujours, venir en appui. Et cette fois-là, on leur demandera que ce ne soit plus seulement l'appui technique, mais si d'une manière ou d'une autre, ils peuvent aussi intervenir d'une manière financière pour créer quand même cette indépendance, cette autonomie dans la gestion quotidienne de la question des droits de l'homme, F. Bazaïba.
Oui, en ce qui concerne les ressources, c'est dans l'article 25 et 26, les ressources de la commission sont constituées principalement de la dotation émargée au budget de l'État. Donc la commission va élaborer elle-même, conformément à la loi financière, ses prévisions budgétaires portant exclusivement sur la rémunération et les fonctionnements. Donc il n'y a pas de fonds d'investissement. Et lorsque la commission transmettra au gouvernement, et nous sommes autorités budgétaires, nous allons faire un effort pour donner les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de la commission. Néanmoins, l'article 26 aussi autorise à la commission d'obtenir des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur, mais que cela ne puisse pas aliéner la commission, parce que il y a des discussions, par exemple, au niveau de l'examen de cette loi concernant la compétence matérielle et territoriale de cette commission. La compétence matérielle, je crois, c'est repris à l'article 6 où la commission doit d'abord faire connaître aux citoyens leurs droits. En fait, la commission, comme un des auditeurs avait dit, c'est un des groupes de pression à un niveau très élevé, mais qui ne prend pas la place des institutions judiciaires. La commission va aider aussi à renforcer la capacité d'intervention des associations de défense des droits de l'homme dans les enquêtes sur tous les cas de violation des droits de l'homme, orienter les victimes et les aider à rester en justice sur toutes les questions avérées de violation des droits de l'homme. Et dans cette compétence matérielle, la discussion c'est tout, on parle des droits de l'homme. Est-ce qu'il s'agit seulement de la personne physique ou la personne morale? C'est une grande question parce qu'il y a des dispositions qui prennent en compte aussi la question de la personne morale. Même le principe de Paris n'interdit pas. La personne morale, prenons les cas d'une association, d'un siège d'une association ou d'un parti politique ou d'un organe de presse qui est violenté. On a vu ces cas-là, on a brûlé le siège de tel ou tel parti, etc. Est-ce que cette personne morale peut réclamer les droits? Mais de l'autre côté, mais lorsque les personnes morales violentent les droits des personnes physiques, c'est un droit, par exemple, une entreprise qui procède à un licenciement abusif, etc. Donc, on peut aussi réclamer ces droits. En ce qui concerne les compétences territoriales, c'est les Congolais qui a besoin d'une protection. Les Congolais veulent se sentir protégés parce que nous avons beaucoup souffert. Je vous ai expliqué l'historique de là où nous venons, là où nous sommes. Alors, maintenant, est-ce que cette commission aura seulement des compétences sur l'étendue du territoire national pour protéger les Congolais vivant ici? Ou alors, y compris aussi les Congolais qui vivent à l'étranger? Mais là, nous avons des annotations, par exemple, des partenaires au développement, des amis des droits de l'homme au niveau international, qui disent non, cette commission ne doit avoir que des compétences territoriales sur l'étendue du territoire national. Alors que nous avons un problème à régler aussi avec des Congolais qui vivent à l'étranger, qui se sentent en insécurité, qui se sentent abandonnés par la République démocratique du Congo. Vous voyez un peu les tendances, les frustrations qui se transforment en des révoltes, en des violations aussi des droits de l'homme, à des atteintes physiques de la part dans les chefs des Congolais qui vivent à l'étranger, parce qu'ils se sentent insécurisés. Voilà, nous estimons que c'est une question importante.
Voilà. Honorable, on va revenir à vous et aussi on va accorder la parole à Julien Attacla pour répondre à cette préoccupation qui du reste est quand même très pertinente, d'autant plus que les partenaires qui viennent à l'appui peuvent déjà apporter aussi quelques solutions par rapport à ça. On va y revenir juste après les flashs d'information, mais tout en vous rappelant, chers auditeurs, vous pouvez également nous rejoindre au 081 890 63 15 ou si vous voulez, écrivez-nous à pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous poursuivons avec parole aux auditeurs, le dernier quart d'heure, avec vous, chers auditeurs, composez les 081-890-43-39. Nous avons dans ce studio Julien Attacla Aïno, coordonnateur de l'unité formation, renforcement institutionnel et sensibilisation au BCNUDH, Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Julien, vous avez suivi, avant les flashs d'information, les auditeurs qui ont réagi et vous avez également suivi la préoccupation tout à l'heure de l'honorable Eve Bazaïba. Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup. D'abord, j'aurais souhaité compléter l'honorable Eve Bazaïba sur l'inquiétude qui a été exprimée par un auditeur et qui disait que, voilà, dans un pays sérieux, ce ne sont pas des commissions des droits de l'homme qui assurent le respect des droits de l'homme et que, ce faisant, on empiète ou on empiéterait.
On a dévolu exactement, au tribunal.
Exactement. Juste pour dire qu'en fait, dans la plupart des pays qui se sont dotés d'une institution nationale des droits de l'homme, qu'on appelle Commission nationale des droits de l'homme ou toute autre dénomination, c'est des entités qui ont une nature juridique administrative et qui n'empiètent pas sur le travail que font les tribunaux en matière de protection judiciaire des droits de l'homme. Les tribunaux, les cours et tribunaux ont leurs compétences et ont leur champ qui est bien déterminé. Mais le champ de compétence d'une commission comme la CNDH dont on parle est beaucoup plus large. Est beaucoup plus large parce que dans tous les pays où nous avons vu des commissions s'installer, il s'agit de non seulement travailler à assurer une plus grande protection des droits de l'homme, mais aussi la promotion, lorsqu'on parle de protection, sans empiéter sur le judiciaire, ces commissions-là reçoivent des plaintes, reçoivent des requêtes, les instruisent et essayent de régler à l'amiable dans la limite de ce que la loi permet, ou de faire le suivi de certains cas qui sont pendants devant les tribunaux et de s'assurer que la violation des droits de l'homme a cessé. Et du point de vue de la promotion, c'est des commissions qui également ont le pouvoir d'informer, de sensibiliser, de faire le plaidoyer auprès des autorités nationales pour ratifier des tests ou des instruments internationaux ou régionaux. Et ça, c'est pas les cours tribunaux qui vont faire ce plaidoyer pour que l'État puisse ratifier des instruments qui n'ont pas encore été ratifiés. Donc c'est une compétence beaucoup plus large et qui permet vraiment à cette institution des droits de l'homme de veiller au grain et de s'assurer que tout fonctionne bien et que les droits de l'homme
sont respectés. Et comment ça va se passer concrètement avec les ONG qui sont sur le terrain, les ONG des droits de l'homme, quelle sera la collaboration entre les ONG et cette commission?
Bon, en fait,
au niveau du travail.
Voilà, merci pour cette question. Avant d'y répondre,
parce que finalement, on a l'impression que la commission, c'est une grande ONG et qui englobe toutes les ONG des droits de l'homme. Si on peut peut-être apporter cet éclairage-là aux auditeurs.
Les institutions nationales des droits de l'homme ne sont pas des ONG. Ce sont des institutions étatiques, mais qui doivent avoir une composition plurielle et très variée. Et c'est pour cela que dans les principes de Paris, il est recommandé que la composition soit diversifiée, qu'il y ait des acteurs des ONG, associations de droits de l'homme, qu'il y ait des acteurs de différents...
Des représentants.
Des représentants, bien entendu.
On ne peut pas prendre toutes les...
Non, pas l'association, mais quelques représentants. Voyez-vous, d'autres institutions étatiques peuvent y être représentées, des avocats, des magistrats, toutes sortes de syndicats. Tout, il faut que ce soit plusieurs tendances, enfin, au niveau des institutions qui travaillent, des organismes qui travaillent, pour que les préoccupations de la population puissent se refléter, qu'il y ait cette sensibilité plurielle au niveau de la commission pour pouvoir faire le suivi et s'assurer que les dispositions, les lois, règlements, les politiques de l'État soient respectées au niveau des droits de la personne humaine. Voyez-vous, voilà. Et j'avais un dernier point, j'en aurais fini, par rapport à la question de l'extraterritorialité qui a été évoquée par l'honorable. En fait, la compétence d'un État, normalement, s'exerce dans les limites sur les sujets de droit qui vivent dans les limites géographiques de son territoire. Et l'État est aussi appelé à intervenir quand certains de ses ressortissants, même s'ils ne vivent pas sur son territoire, sont en situation difficile à l'extérieur. Pour le cas d'une commission des droits de l'homme, d'une commission nationale des droits de l'homme, effectivement, je comprends que l'on a fait allusion à des commentaires ou des suggestions qui sont venus de notre bureau basé à Genève et qui recommandaient que cet aspect soit beaucoup plus analysé avec beaucoup de précautions parce que dans l'ordonnancement juridique, par exemple, de la RDC, lorsque un Congolais a un problème dans un autre pays, est-ce que la compétence première revient directement à la Commission ou revient à d'autres institutions qui représentent l'État dans les relations internationales? Donc ça appelle beaucoup de sujets. Et donc c'est pour cela que par rapport à cette question d'extraterritorialité...
Les bureaux conjoints émettent quelques réserves.
C'est juste des réserves pour que tout soit bien analysé de manière approfondie. Yeah. Le bureau conjoint ne donne pas d'injonction, naturellement. Non, pas du tout. C'est juste des suggestions.
Des suggestions.
Voilà, des suggestions qui ont été
faites. Voilà, on va prendre tous derniers auditeurs qui sont en ligne. Hein, Léonard Mboujimaï et Michel Amatadi. Bonjour Léonard.
Bonjour Alex.
Voilà, Léonard, vous avez 30-40 secondes. Si vous allez faire peut-être quelques propositions.
Bon, je n'ai pas réellement une proposition pour l'instant, puisque l'enfant n'est pas encore né, nous attendons, et nous sommes seulement...
Oui, comme l'enfant n'est pas encore né, si vous pouvez faire des propositions au moment où il y a...
La fille,
oui.
De savoir est-ce que réellement elle sera indépendante. Est-ce que réellement cette commission aspirera des responsabilités comme il faut. C'est ça notre traité. Il faut que madame qui est là, l'honorable, que nous donne, nous rassure. Bien que la fin n'est pas encore née, elle nous rassure quand même, mais que la commission va jouer pleinement son rôle.
Voilà. Merci Léonard. Michel, vous êtes à Matadi. Rapidement aussi, en 30 secondes, si on peut conclure avec vous.
Oui, j'allais juste vraiment commenter que si les droits de l'homme doivent protéger et ceux qui nous dirigent et la population, il faut qu'il y ait cette égalité. Parce que les textes sont très beaux à lire. Mais le problème, c'est l'exécution. Parce que nous voyons que les droits de l'homme, parfois, protègent ceux qui commettent de tels actes. Des actes qui ne sont pas liés à comprendre. Mais ce qui est vrai, les hommes qui en subissent, c'est les petits peuples et la population. Donc nous, notre vision, c'est que nous puissions voir tout le monde soit dans l'égalité. Donc, et ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui sont dirigés, soient au moins point d'égalité. Lorsqu'on protège des gens, par exemple, nous voyons ce qui se passe. C'est qui aujourd'hui le texte, ce sont ceux qui élaborent ces textes-là. Et nous voulons que...
Voilà, Michel, le temps nous fait défaut, on s'est obligé de conclure avec vous, donc nous retenons que vous demandez aujourd'hui l'implication au fait que la commission puisse être vraiment indépendante. Voilà, on va accorder la parole à nos invités pour conclure cette émission. On commence avec vous, Madame Bazaïba, vous êtes députée nationale et vous travaillez dans cette commission. Est-ce que la crainte aujourd'hui, cette commission, la loi, risque aussi, par rapport aux inquiétudes des auditeurs, subir ce qu'a été la loi portant l'abolition de la torture, qui a été d'ailleurs adoptée, et finalement, on s'est dit, si elle est l'application hein, sur le terrain, la crainte est à ce niveau-là. Les auditeurs émettent quand même quelques inquiétudes par rapport à ça aussi.
Oui, en très peu de mots, je vais d'abord commencer par dire que la nature de cette Commission nationale des droits de l'homme, c'est une institution consultative. Deuxièmement, je veux dire...
Pas répressive, comme le pensent les auditeurs.
Pas répressive, c'est une institution consultative, un groupe de pression, en fait, en plus d'orientation, en plus de ce que j'ai dit comme sa mission, il y a par exemple l'élaboration des rapports des droits de l'homme. Souvent, les gouvernements élaborent quand même des rapports avec une certaine complaisance. Mais si nous avons une institution qui est du reste une institution de l'État, mais dans sa composition, composée par des experts en matière des droits de l'homme, la société civile, des personnes, j'ose croire que la société civile ferait un effort de nous trouver des personnes compétentes, je crois qu'il y aura quand même une certaine balance en ce qui concerne la vraie vérité sur le monitoring des droits de l'homme dans notre pays. Et je voudrais terminer par dire que en fait, le respect des droits de l'homme, je vais paraphraser le feu président Oufoué Boigny qui a parlé de la paix, c'était un comportement. Le respect des droits de l'homme, c'est un comportement. Nous devons adopter le comportement de respecter les droits de l'homme. Nous pouvons pointer le pouvoir public les droits aujourd'hui en ce qui concerne les violations des droits de l'homme parce que le pouvoir public a l'instrument de répression. C'est la seule autorité qui a droit à la répression. Mais souvent, il y a des abus dans ces droits-là de répression. Alors, nous condamnons le pouvoir public, mais en même temps, il y a des individus qui violent aussi les droits de l'homme. Et ces responsables au niveau du pouvoir public, ce sont aussi des êtres humains comme nous. Je crois que nous devons adopter un comportement des droits de l'homme dans nos maisons, dans nos familles, dans notre société, dans notre environnement, nous n'aurons pas assez de problèmes de violation des droits de l'homme.
Merci, Mme Eve Bazaïba. Julien Attacla, dernier mot par rapport à réaction des auditeurs de tout à l'heure.
Oui, juste pour dire que en fait, la construction d'un état de droit, c'est une entreprise de longue haleine qui prend du temps. Et là où on en est aujourd'hui, avec tous les instruments internationaux, ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices. Et donc, je voudrais dire et inviter les auditeurs à ne pas perdre courage ou à ne pas être désespérés et non plus à penser déjà que la commission ne sera pas indépendante. Il faut toujours espérer pour le mieux. On dit souvent que les institutions ne valent que ce que valent les personnes chargées de les animer. Donc, aussi bien les membres qui seront les commissaires que les personnes, la population et tout le monde doit jouer sa partition pour que ce soit vraiment une bonne commission dont tout le monde, tous les Congolais seront fiers.
Merci Julien, merci Madame Eve d'avoir accepté votre invitation.
Allô? 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 Mais, il ne répond pas?
Merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Dieudonné Nyangasa qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierre Lamegi l'ont réalisé et J.R. Lungembo vous l'a présenté sous la supervision de Ben Kabamba. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Demain, parole aux auditeurs, va s'intéresser à la sécurité des personnes et de leurs biens tels qu'assurés par la police nationale. La question cœur du débat, quelle analyse faites-vous de la manière dont la police exécute des mandats et autres décisions judiciaires dans votre milieu? Voilà, merci de nous faire parvenir déjà vos commentaires et analyses à notre courriel pa@radiocapi.net. Vous avez aussi la possibilité de déposer vos réactions sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. À très bientôt.